I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur parole. Ce podcast s'intitule Sur parole.
Sur parole.
Il est présenté par Gigi Pop.
Sur parole.
L'invité est Julien Santini.
Oui, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur parole. Aujourd'hui, je reçois un humoriste, comédien, homme de scène, homme de télé, maître chanteur, tantôt fragile, tantôt docile, Bibou, le gros pervers, Juju Bellorgan, doubleur officiel de Christophe Maé, j'ai nommé Julien Santini. Une imitation de Christophe Maé tout de suite pour vous.
Oh, Bombo, dis le Tom, papa, tu es parti sans dire adieu. Papa, ça fait mal de vivre sans toi. Ça fait mal et tu ne le sais même pas.
Mec, c'est impressionnant.
Moi-même, je trouve ça impressionnant.
Wow! Comment ça va, Julien Santini?
Bah, super, merci beaucoup d'être là, les Blinis.
Les Blinis! Merci à tous les Blinis, ça régale. Alors, avant de commencer l'émission, j'ai une question rituelle. As-tu une parole de chanson préférée?
Oui.
Oui, quelle est-elle?
Je l'interprète.
Ah, tu peux l'interpréter avec plaisir.
Je me sens sous... Alors, je peux refaire?
Vas-y.
Relance-moi.
Non, mais vas-y.
Non, relance-moi.
Je te relance?
Ouais.
C'est toi qui décides, en fait? On part sur de mauvaises bases.
Je vois rouge.
Je vais me taper dans pas longtemps. Écoute-moi bien. Ok, je te relance. As-tu une parole de chanson préférée?
Oui.
Chante-la.
Sous ce ciel de cristal, je me sens si légère. Dis-moi, princesse, as-tu jamais rêvé d'un monde bleu? Ce rêve bleu, ne ferme pas les yeux, n'y crois pas, c'est merveilleux.
C'est très long, merci à toi. Alors pourquoi t'as choisi ce rêve bleu?
Bah, c'était le film Aladdin.
Ouais, exactement, ah ouais, très bien. Ah ouais, ok.
Et le dessin animé.
Ouais.
Et c'est mon dessin animé préféré.
C'est vrai?
Un de mes films préférés.
Bravo, trop bien. Bah, très bon choix. Écoute, pour toi, alors voilà, tu connais pas du tout le concept, ça s'appelle Sur Parole. À chaque fois, je choisis une chanson qui me fait penser à l'invité. Ensuite, on déroule les paroles ensemble. Et chaque parole, ça donne une question. Ah! Et voilà l'interview. C'est brillant.
Trop bien.
Il a l'air trop content. Okay, c'est parti.
Attends, avant de commencer, ça oui. Dure combien? Parce que j'ai besoin de savoir combien de temps je me concentre. Parce que j'ai trouble d'attention.
Bon, écoute, je vais commencer et ça va partir en fait.
Mais le podcast.
Non, t'es imbuvable. T'es imbuvable, tout simplement. Donc voilà, ça ce sera coupé ou pas. Je vais décider. C'est moi qui décide, voilà, de toute façon. Donc tu la fermes et tu m'écoutes. Alors, j'ai choisi, Julien Santini, j'ai choisi pour toi une chanson de Daniel Balavoine. Je ne suis pas un héros. Ah, pourquoi? Parce que t'es le mec le plus drôle de France, mais tu sais rester modeste. C'est vrai, ça?
C'est adorable.
C'est adorable. Alors déjà, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes cette chanson?
Oui, c'est une très très belle chanson. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux.
Tu sais ce que tu fais, toi?
Ouais.
Quand tu chantes, à la fin, tu fais... Tu décroches.
Oui, un peu
R&B, ouais.
Parce que j'adore ça.
Parle bien devant le micro, sinon je dors une.
Je l'adore cette chanson parce que elle est très belle. Elle me touche sans expliquer pourquoi elle me touche. Ouais.
Et alors, est-ce que tu aimes en général Daniel Balavoine?
Je vais pas te mentir. C'est pas quelqu'un que j'écoute souvent ou tous les jours ou que je connais très très bien. Bien sûr, il est dans la mémoire. Et dans l'inconscient collectif de tous les Français. Après, c'est pas mon chanteur préféré, mais il a quelque chose qui est brillant et qui me touche, comme je pense beaucoup de gens.
Très belle réponse. Eh bien, écoute, on va commencer les paroles tout de suite. Les premières paroles de la chanson sont « Des coups de poing dans l'âme ». Première question, est-ce que tu es bagarreur ?
Absolument pas, mais je me rêve quand même bagarreur.
Tu t'es déjà battu ?
Oui.
Ah.
Alors, j'ai grandi en Corse, donc il faut expliquer que ah, en oui, voilà. Corse, ça bagarre. Et d'ailleurs, nous, il y a une expression pour expliquer la bagarre,
ouais.
Parce que ça se bagarrait souvent. C'était « il t'attend à la fin et... !»« Les gars, il y a Katsutad !»« Il y a Katsutad !»
Et Katsutad ?
Katsutad. Katsutad, ça veut dire Katsut, les Katsut, c'est les points, les coups de poing. Ça voulait dire, ça se bagarre. Viens, tu as peur, Katsutad.
Ah ouais.
Et donc
tu te tapais souvent, quoi ?
Pas souvent, mais j'ai dû le faire. Je crois que j'ai été lamentable. J'étais lamentable, attends, quand on m'attendait. C'est-à-dire que je pouvais être bon si je réfléchissais pas, mais si c'était... Toi, tout à l'heure, après les cours. Alors là, je cogitais beaucoup trop pendant tout le cours. Là, ouais, c'était mort. Ouais, c'est terminé.
Vrai. Toi, il faut que ce soit improvisé, quoi.
Il faut que je réfléchisse pas.
Très bien. Donc, tu sais te taper, quoi, plus ou moins.
Pas.
Tu gagnais pas souvent, quoi.
Non. Je n'aime pas ça. Hein. C'est vraiment la dernière arme. Hein. Il faut pas. Hein.
La Katsutad, c'est non. La deuxième parole, c'est le froid de la lame qui court. J'ai deux questions pour toi. Est-ce que tu es frileux ?
Je suis très frileux, oui. De plus en plus, je me déteste. Je me surprends. C'est-à-dire, je vais consulter maintenant, désormais, météo. Et je me surprends. Tu as vu mes couches ? Là, regarde, le pull, ouais. Le t-shirt manche longue,
ah ouais.
qui protège, et le t-shirt.
Ouais, trois couches. Alors qu'on est en studio. Oui, moi, j'ai trois couches aussi.
Non, mais toi, t'as un t-shirt.
Une petite chemise et une petite veste.
Ouais, t'as pas le t-shirt de protection.
Je suis moins frileux. T'as des chaussons à la maison ?
Non.
Ah, tu marches pieds nus ?
Oui. Je suis plein de paradoxes. Hein.
Merci pour cette réponse. Eh bien, écoute, attends, j'avais une deuxième question à propos de ça, bouge pas. Pour l'instant, c'est un sans faute.
Bon, merci.
Ouais. t'es frileux. Alors oui, et la question, c'est le froid de la lame qui court. Deuxième question, est-ce que tu cours ? Est-ce que tu fais du jogging ? Est-ce que tu entretiens ton corps ?
Non, pour le faire, j'essaye maintenant de prendre les escaliers et pas l'ascenseur. J'ai besoin d'avoir une balle après laquelle courir ou un ballon. Donc, soit le tennis, soit le foot. Et il me faut un match. Donc, je ne peux pas courir pour courir. Ça, c'est impossible. Il n'y a aucun intérêt, aucun enjeu pour moi. Mais je sais que c'est bien de le faire. Donc, j'essaye de provoquer un match de tennis, un match de paddle, un match de foot. Mais je le fais malheureusement pas souvent.
Du coup, ça veut dire que tu as l'esprit de compétition ?
J'ai grave l'esprit de compétition.
T'es mauvais perdant ?
Je suis mauvais perdant, mais j'apprends à me dominer et à respecter quand même l'adversaire, à me forcer à dire non, mais t'as gagné, t'étais plus fort et tout. Mais faut pas qu'il me dise une phrase de travers parce que sinon je vais le casser en deux, quoi.
Et est-ce que, non mais attends, pour de vrai, est-ce que l'esprit de compétition, ça joue aussi, si tu l'as aussi dans le stand-up ? C'est-à-dire si tu fais un plateau avec 8 personnes. Et qu'il y a quelqu'un qui a été grave plus marrant que toi, t'as un peu la haine.
comment dire ? Non, parce qu'il faut réfléchir à la réponse qu'on dit, il faut réfléchir à ce que les gens vont entendre, ce qu'ils peuvent percevoir de moi.
De ta personnalité.
Si je prends autant de circonvolution, c'est parce que, bien sûr, j'ai tendance à dire qu'on est quand même seul dans son couloir. Moi, si j'ai cartonné de fou, que tout le monde cartonne, n'est pas un problème, tu oui. vois. Ce qui est dur, c'est et donc ça veut bien dire qu'au final c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est que moi je serais très très frustré. Je peux être extrêmement frustré si sur un plateau dans le cas de figure que tu me donnes que des gens aient très très bien performé et pas moi, mais bien sûr, mais c'est normal et c'est sain. Ça veut dire que j'ai pas fait le job qu'on attend de moi. C'est compliqué à vivre. Moi, je le vis mal, ouais. Et je travaille tous les jours d'ailleurs pour ne pas avoir à me poser cette question.
Du coup, tu te remets beaucoup en question ?
Mais non seulement je me remets en question, il y a une partie de la remise en question et une partie de travail. Alors, la partie de travail artistique, technique, c'est pas de la remise en question, mais c'est parce qu'on se remet en question qu'on va travailler qu'ensuite il faut aller dire bon, bah, quelle direction, quel était le problème. Et j'ai fait ça toutes les années derrière moi. Moi, je peux te citer des événements où j'ai participé à des festivals où il y avait des tremplins jeunes talents, des festivals d'humour en France, où ça a été un moment très dur pour moi. Et c'était des moments hyper fondateurs pour moi. Je sais que là où j'ai le plus progressé, c'est tel jour, tel événement et tel événement, parce que suite à un moment très très dur, je me suis dit plus jamais ça, j'ai eu une prise de conscience de quelque chose et j'ai eu une seconde vie de stand-up qui s'offrait à moi pour moi. Il y avait des virages à prendre.
Parce que t'as pris un four, quoi.
Oui, mais pire que ça, c'est-à-dire que c'était pas le fait de prendre un four. Moi, je me rappelle d'un festival où j'ai commencé, où je me suis dit... À l'époque, je travaillais avec mon metteur en scène et il me disait « Non, il faut vraiment que tu fasses ton sketch, que tu sois dans ton rail, que tu fasses et tout. » Et moi, j'avais envie, c'était mes premières années, et j'avais envie d'explorer comme on explore une nouvelle terre, etc. Moi, je suis au début, me figer sur un truc, c'est très tôt. Déjà, il ne faut jamais le faire, totalement, fondamentalement. Mais donc, je me suis dit sur les trois premières minutes, j'ai une entrée, je pense à quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose. Je me rappelle plus exactement l'entrée, mais j'ai commencé sur ça. Et l'entrée, c'était, tu sais qu'en plus, on peut faire du stand-up dans l'absolu, ça n'existe pas. Il n'y a que des moments. Et là, c'était en passé très très tôt. Il n'y avait pas vraiment de maître de cérémonie. Le public c'était très froid. Donc, c'était des conditions très 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 compliquées. Et chacun devait faire au moins 20, presque 20, 25 minutes. Et donc, c'est très long pour le public. C'est pas un plateau où ça, toutes les 8 minutes, ça circule. Et donc, moi, j'ai commencé avec cette entrée. L'entrée a frémi. Il s'est passé vraiment quelque chose. C'est-à-dire que par rapport aux conditions, ça veut dire qu'on est plutôt dans la bonne voie. Et puis après 3 minutes, je suis rentré dans mon sketch. Et là, ça a été 17 minutes de tunnel. 17 minutes de tunnel. Et le lendemain, j'étais dans une crêperie avec un ami. Puis j'ai pleuré. Et je sais que ça a été déterminant pour dire, là maintenant, je suis à un carrefour. Est-ce que je vais vers une voie où j'ai aucune sécurité, mais qui était ces trois premières minutes où j'ai aimé, où je me suis senti vivant, où il se passe quelque chose? Est-ce que je ne ferais que faire mon sketch en me disant, non, mais hier, il faut oublier, c'était hier, etc. Moi, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre une voie qui pouvait paraître compliquée pour beaucoup de gens, qui consistait à s'adapter beaucoup aussi au moment, etc., qui est un peu tout mon travail et qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, d'expérience, de jeu. Et c'est celle que j'ai suivie et je pense que j'ai eu raison.
Oh là là, c'est une belle réponse que tu as fait là. Mais parce que du coup, ces 3 minutes que tu avais, ces 3 minutes, c'était ce qu'on peut voir à peu près maintenant de toi. C'est-à-dire un peu ce personnage qui passe un peu du coq à l'âne, qui fait plein de ruptures, etc.
Il y avait quelque chose de plus absurde, oui, à ce moment-là. Mais tu vois, ce qui était fou, c'est que les 17 minutes, tu es stand-upper, tu sais ce que c'est. Les 17 minutes, moi, je l'avais fait dans un zénith, je me rappelle, le zénith de Saint-Brieuc, dans un plateau un mois avant. Je fais le sketch, les 17 minutes de tunnel, je l'ai fait. Et les 17 minutes, elles ont été magnifiques. Mais la différence, c'est que je passais en dernier sur ce truc-là, que le maître de cérémonie à ce moment-là m'avait fait une introduction comme j'en ai rarement eu. Il avait fait monter la sauce, c'était assez... Tu vois, je vais te dire, il s'appelle Laurent Chandemerle et je lui rends hommage, c'est un imitateur très fort, et il avait fait monter les gens, il a dit, j'étais passé après, c'est un conditionnement le rire. Et pardon, peut-être je divague, mais
non,
juste
non, mais
pour en parler,
pour ça.
C'était un moment, il a dit, vous savez, je passe après un imitateur qui donc a fait son passage, c'est un imitateur, il est très talentueux, ça se passe très bien. Et ensuite, il dit, vous avez vu là, en termes d'imitation, c'est là. Là, la personne qui va venir, je pense que vous n'êtes pas prêt. Je pense que vous n'êtes pas prêt. En tout cas, on va monter d'un cran. Mesdames et messieurs, Julien Santini. Et là, à ce moment-là, personne ne nous connaît et tout. Les gens se disent, waouh. Ouais. Démarre, et je faisais une entrée à l'époque qui était sous les sunlights de Tropique de Gilbert Montagnier, et donc il y a la première musique de l'instru, et je commence, et ça va faire 15 secondes d'instru. Vivre sous l'équateur du Brésil. Et à partir de là, ils ont dit « Ok, il nous a eu ». C'est-à-dire, Laurent, pour le coup, on s'est fait avoir. Et donc, à ce moment-là, ils ont tout compris de ce que ça allait être. Et tout était très clair.
C'était limpide, ouais.
Et à partir de là, les 15 minutes, parce que les gens, parce que le festival, parce que le line-up, eh bien, c'était très clair. Mais c'était Là, ce soir-là, c'était une cartouche que je pouvais jouer. Que je puisse la sortir, c'est bien, mais dans d'autres conditions qui étaient pas plus tard qu'un mois après, eh bien, la même chose, et c'était pire. Peut-être que ça aurait même mieux marché si j'avais pas fait mon entrée frémissante, entre guillemets, mais comme j'amène les gens vers une piste un peu au début absurde, où on se dit, on sait pas trop où il veut en venir, mais en même temps, on aime bien ça, mm-hmm. et qu'ensuite je rembraye sur un truc. Très écrit, qui n'en est peut-être pas moins efficace, mais qui n'est pas la promesse du début, c'est ce que j'appelle, c'est la théorie d'un changement de tonalité qui est tellement, c'est comme faire une impro qui marche très bien et embrayer sur un sketch. Il faut que l'impro meure, il faut qu'elle aille au bout, que c'est un timing, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, prendre le bout là, et quand on sent que c'est le bon moment, parce que les rires diminuent, tant mieux, parce que c'est parce qu'ils diminuent sur l'impro qu'ils pourront revenir sur du sketch. Si les rires sont trop forts sur l'impro, commencer sur un sketch, le sketch ne sera jamais si fort que l'impro, parce que les gens aiment terriblement qu'on s'adresse à eux, qu'ils ont besoin de ça. Alors on peut s'adresser à eux de façon directe, le sketch indirect, mais c'est des temps. Chaque blague a des temps et c'est cette gestion-là, surtout si on veut être sur un travail clownesque, je sais pas quoi, qu'il faut maîtriser exactement comme une cuisson pour que le plat soit al dente.
Oh là là, bah, c'est une leçon de vie que tu nous donnes.
Merci beaucoup.
Mais non, mais surtout, c'est marrant parce que, enfin, moi, je m'en doute, mais je pense que la plupart des gens qui te voient sur scène, ils se disent, oh ouais, il fait un peu nimpe en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
C'est que c'est un peu ta sauce, c'est-à-dire ça part d'un coup, tac, toi, c'est quoi ton prénom, non, en fait, etc., etc.
Oui.
Et tout ça, c'est que de la tambouille et c'est hyper timé dans ta tête. On est d'accord avec ça?
Oui, et puis l'histoire du prénom, qui devient prénom rapide, et j'aime bien, c'est aussi, ça peut aussi, si je vois que là, tiens, j'ai envie qu'il y ait plus de rythme, à ce moment-là, ben, je vais la mettre, j'en ferai pas grand-chose, mais le prénom peut aussi m'amener sur quelque chose, et ça va être, une cartouche à ce moment-là qui peut peut-être faire du bien.
Très bien, et ben, écoute, très impressionnant. Et aussi, je me demandais, c'est... Toi, tu dis que c'est beaucoup de travail. Est-ce que toi, par rapport à ce que tu fais sur scène, moi, évidemment, t'écris, etc., mais est-ce que tu répètes à l'oral chez toi ou comment ça se passe Est-ce que ta façon, tu dis, tiens, je vais le dire comme ça, ou tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, je le fais. Après, ça va dépendre. Pour moi, c'est pas tant la blague qui va être importante que le fait que le mot sonne, que la formule claque et qu'elle ressemble à une... Moi, je pense que les gens, ils ont besoin d'une musique et qu'on se dise, ça sonne comme une punchline. Moi, je ne suis pas un gars de punchline. Quand... Il n'y a rien de pire que quand quelqu'un me dit, il faut que je te raconte une blague, que je comprends 9 fois sur 10, je ne les comprends pas. Parce que ce qui me stresse le plus, c'est que quelqu'un m'ait kidnappé pendant 30 secondes en me disant, je vais te raconter quelque chose de façon très sérieuse et tu vas rigoler à la fin.
Ouais, non.
Parce que moi, à la fin, je me dis, mais si je ne rigole pas? Et donc, ça finit toujours parce que je ne les comprends pas, les blagues. Et c'est l'histoire qui compte. Hein. C'est vraiment... Il faudrait que la blague soit extrêmement forte. Donc, c'est pas la punch, c'est le traitement, la musique... Et que ça sonne, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des débuts, milieu, fin. Donc c'est plus ça. Après, comment je répète
ça... À force de faire des plateaux, ou est-ce que chez toi déjà tu t'entraînes?
Il y a les deux. Peut-être un truc peut naître un peu sur le plateau. Chez moi, je m'entraîne, mais ça va toujours être articulé à quelque chose. Tu vois, par exemple, je me rappelle que un jour, j'avais vu Paddington au cinéma. Et Paddington, à un moment, tombe amoureux. Et il y a la musique de Lionel Richie, Hello. Et tu vois une peluche tomber amoureux. Et là, ça me saisit. Et le lendemain, je me suis dit, je veux que dans mon spectacle, il y ait le regard coup de foudre. Et en fait, je le scénarise dans une histoire que je raconte. Donc, mon travail après, ça va être... Moi, je sais qu'à un moment, je veux incarner un mec qui vient un coup de foudre.
Ouais.
Ça, c'est mon postulat qui est né d'une séance au cinéma. Par contre, mon travail à moi le lendemain chez moi, c'est de le scénariser en me disant, le moment où je raconte que voilà, je voulais être comédien, il va y avoir une accroche, une entrée. Alors, je laisse le mystère un peu pour que les gens puissent venir le voir au spectacle. Mais il y a un moment où je vais incarner le regard coup de foudre, comme je l'appelle. Et c'est un des moments qui devient les moments très, très forts du spectacle.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, tu vois, c'est né de ça. Et ça, pour le coup, c'est tellement pas une punchline parce que c'est un truc qui vient aussi de quand, qui faisait écho en moi quand on est adolescente dans notre chambre et qu'on se dit, putain, tu crois que quand je fais ce regard, je suis beau ? Et c'est tellement ridicule. Et là, à ce moment-là, j'essaye d'avoir une intensité. Je me sens moi-même intense et les gens me disent, mais mec, ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, t'es intense. Bon, ma femme me trouve ridicule, mais quand je rêve, mais tu vois, c'est à ce moment-là intense, quoi.
On va enchaîner avec la parole d'après. C'est chaque jour me pousse un peu.
Je pense pas que. Excuse-moi.
Non, mais sinon, c'est trop tôt. Sinon, je vais me faire foutre. Pas de problème. Tu voulais dire quelque chose ?
Non, pas du tout. C'était pour te faire rire.
Ah, tu me fais rire. Je t'adore, en fait.
Je vois rouge.
T'es pas obligé de me répondre, mais.
Et tout cassé.
T'es pas obligé de dire par moi aussi.
Moi aussi.
Ah, ok. Très bien. La parole d'après, c'est chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Alors. Comme tu le sais pas, puisque tu n'as jamais écouté, mais à chaque fois, ça passe un peu du coq à l'âne au niveau des questions, en termes de questions un peu futiles, questions non futiles. Et celle-là n'est pas du tout futile, puisque la question est, est-ce que tu penses souvent à la mort ?
J'y pensais beaucoup, peut-être beaucoup plus jeune. Et puis un jour, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, mais souvent la peur de la mort, c'est aussi la peur de la vie.
Oh.
Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je pense que l'ouverture, elle est là.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh ben, ça veut dire que c'est que c'est normal de se poser ce questionnement, mais pour pas qu'il soit fermé, l'important est peut-être d'essayer que ce qui nous traverse et ce que l'on vit lorsqu'on le vit, eh ben, on essaye de le vivre de façon à ce que ça puisse être le plus épanouissant possible.
Oh là là, mais on dirait. Déjà, je me crois que tu lis un texte tellement tu parles bien. Alors, vous le voyez pas, mais là, il s'est mis dans une position de.
Penseur.
De grand philosophe. Ben c'est très beau. Mais du coup, alors, du coup c'est la deuxième question subsidiaire. Donc, est-ce que tu as peur de la mort ? Non, pas du tout.
J'ai peur, bien sûr, bien sûr. Je trouverais ça injuste que ça m'arrive à moi.
Oui.
ça me fait chier. Ça me fait chier parce que...
Ça ne m'arrange pas.
Ça ne m'arrange pas, mais je suis beau joueur. Donc, je l'accepte parce que... peut-être parce que je n'ai pas le choix. Et aussi parce que l'accepter le plus rationnellement possible, on va dire, le plus beau joueur possible, c'est peut-être, à mon avis, me permettre de m'offrir des beaux moments de vie à venir, je pense. Parce que c'est sans ça que tu viens de citer que la vie, que tout ce qu'on vit de positif peut aussi arriver, apparaître. Et c'est comme, quand on dit « moi j'aimerais être tout le temps heureux » et tout, stupidité la plus totale, tout est en relief, c'est parce qu'on peut être malheureux que quand on est heureux, on kiffe. Et pour juste faire un... Et essayer de parler d'éviter de parler de la mort parce que ça me casse les couilles, c'est essayer de se dire, c'est le rire, on parle de stand-up, c'est toujours notre fil rouge, et ben, le rire... Il vient d'un relief, il vient d'une perspective et il vient d'une cassure. Le mec marchait, il tombe sur une peau de banane et il tombe. Eh bien, le rire, il vient parce qu'il y a un moment sérieux. C'est le refrain de la chanson, etc. Il faut les deux. Donc, il faut cette donnée que tu as évoquée et soyons beaux joueurs, acceptons-le.
Oh là 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 là. Mais tu parles si bien. Franchement, c'est incroyable, hein. Je m'attendais pas à ça.
Je sais pas si ça va faire...
Je pensais
faire...
que t'étais un gros neuneu et tout, mais en fait, pas du tout.
Tu pensais ça ?
Ouais.
Tu le pensais pas.
Il y a une bonne ambiance, tu trouves ou pas ?
Moi, j'adore. Le problème, c'est que tu mets la pression sur les vues. Je sais que t'as fait des bons... Je suis pas un mec qui fait des vues.
Ben, on verra, t'en sais rien. Déjà, c'est des écoutes, parce que c'est un podcast. Donc, c'est quand même pas pareil. T'as peur ?
Vous êtes en... Bonsoir. ASMR.
ASMR.
J'ai découvert ce mot il y a pas longtemps.
Très vite, imitation de Renaud, très vite. Renaud.
À m'asseoir sur un banc, 5 voilà. Minutes avec toi.
Bon, allez.
Regardez les chances, t'en gagnes.
Bon, allez. La prochaine parole est « Comme je monte sur scène, comme on prend le dernier train, évidemment. » Tu en as un peu parlé, t'as pas vraiment parlé de cette fois-là, mais la première fois que t'es monté sur scène, comment ça s'est passé ?
Ça dépend de quelle première fois on parle.
La toute première fois. Ah, parce que c'est-à-dire ?
Waouh, waouh, waouh.
C'est-à-dire ?
Bah, la première fois.
Tu faisais du théâtre ?
La première fois, je fais du théâtre. J'ai donc 20 ans. Je suis à l'école d'art dramatique au Courbe. Au Trencanoir à Lyon. Premier cours de théâtre que je fais.
Ouais, alors ?
C'est celle-là dont on parle.
Oui, parle de celle-là.
La première fois. C'était magnifique. C'est hyper, hyper émouvant en plus que tu me lances là-dessus parce que je sais qu'à ce moment-là, j'ai 20 ans. Je suis un peu en échec scolaire. Je dis à mon père, papa, je veux faire du théâtre. Je veux faire du théâtre. Maintenant, c'est fini. Je veux faire. Et là, il me dit, il sent hein, qu'il n'y aura pas d'autre. Là, pour le coup, je lâcherai rien. J'ai quitté la Corse 3 ans auparavant. On est venu sur le continent avec mes parents. On n'est pas dans la meilleure disposition. Hein. C'est dur. On est à Lyon. Ma mère n'est pas à la maison ce week-end-là. Il l'appelle et il lui dit « Bon, écoute, petit, il veut faire du théâtre. Bon, bah, ouais. J'ai mon collègue qui fait du théâtre. Alors, bon, écoute, on va lui dire, il va faire le cours la semaine prochaine. » Et donc, je vais au cours de son collègue et la dame a dit, elle s'appelait Maria, bon, bah, je vais le recevoir, on va lui donner une scène et il va la faire. Et là, je me dis, écoute, moi, je sens que je suis fait pour ça. J'ai toujours rêvé que quelqu'un me dirait, si je joue pour ma première scène, mais enfin, vous êtes fait pour ça, mais c'est pas possible et tout, etc. Et c'est ça qui va me rendre heureux. Et à partir de là, je serai heureux tous les jours de ma vie. Voilà, c'est ça que mon raisonnement, c'est ça. Donc, j'y vais, je joue, c'était des scénettes de René de Obaldia. Je joue le rôle de Jasmin, c'est un petit jeune voilà, qui s'appelle Jasmin. Je fais ma scène et elle s'arrête et elle me dit « Mais c'est pas possible, tu as déjà fait du théâtre. »
Mais non.
Et là, c'est exceptionnel. Je vis le moment que je crois j'avais rêvé et je me dis putain j'avais raison et après tous me disent Julien il faut que on va boire un verre tous ensemble je me dis c'est la famille que j'ai toute ma vie rêvé d'avoir sauf que mon père m'attend avec la Polo Volkswagen pour il est 21h45 on doit rentrer à la maison et donc je vais le voir je dis papa ça te dérange pas ils m'ont proposé de boire un verre c'est extraordinaire ah, attends je suis venu pour te chercher et tu me dis ça mais tu rentreras seul alors non mais bon mais d'accord je vais leur dire non et je me dis putain c'était le plus beau moment de ma vie pourquoi est-ce que tu me l'as gâché et je me dis ça je dois annoncer ça quand j'ai 13 ans et demi pas comme j'ai 20 ans mais j'ai toujours eu peut-être pris plus de temps que les autres
putain c'est beau quand même et du coup donc après ça tu continues le théâtre.
Et je continuais.
Et après, il y a un moment où tu te dis, tiens, je vais faire du seul en scène.
C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc bon, visiblement, ça... vous avez reçu les fiches ?
Pas du tout, non.
Non ?
Absolument pas. Bah non, parce que bah, votre prod, elle m'appelle juste pour la thune. Après, le reste, apparemment, elle s'en fout. Mais bon, comme vous voulez.
Non, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ce cours-là s'est arrêté après 9 mois parce que la dame ne pouvait plus tenir ce cours. J'ai intégré un cours d'art dramatique, vraiment très professionnalisant, où on présentait les conservatoires nationaux d'art dramatique. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis après, j'ai eu un parcours, j'ai pas eu le conservatoire, mais très compliqué. J'ai continué à faire du théâtre en semi-pro. On était payé à l'époque... 15 euros de la représentation. C'était, en fait, on était payé 100 francs
ouais.
Devant les scolaires et on jouait deux fois par jour. Et suite à ça, j'ai repris des études de lettres. J'ai passé un concours administratif parce que je ne sentais pas la porte d'entrée. Tout le monde m'encourageait, mais je ne sentais pas la porte d'entrée. Enfin, ma famille était quand même, avait très peur. Hein. Mais du coup, je ne me sentais pas de faire ça. Je ne voyais pas le truc. Donc, je crois que je n'étais pas prêt. Je pouvais me dire, je suis à ma place quand j'en fais. Pour autant, je ne suis pas prêt à le faire. Et du coup, je suis rentré dans la vie active. J'ai un moment arrêté. Et je me suis dit, je fais un trait sur ça. Je suis sûr que je suis capable de faire des belles choses dedans, mais je n'ai pas de regrets parce que moi, je sais ce que je peux faire, mais j'ai envie de je ne pourrais pas. Il faut dire au revoir à ça.
Ah
et,
ouais.
et la vie a fait que j'ai à un moment opéré un virage. j'ai pas été seul. Puis il y a eu aussi une collègue de travail qui m'a dit un tremplin jeune talent, et je l'ai fait, je l'ai remporté, j'ai commencé à faire des premières parties. Et donc en parallèle de ma vie de stand-up, j'ai, voilà, pas là pour parler de la vie privée, mais j'ai rencontré une personne qui est devenue très importante pour moi dans ma vie, qui est devenue ma femme, qui m'a dit il faut absolument que tu reviennes parce que pour moi tu es l'homme le plus drôle du monde. Et je me suis dit écoute, là je vais revenir et je vais pas lâcher, et on va voir. Et puis ça a été toujours, tu sais, une scène pouvait être la dernière scène, c'était la dernière première partie à tel endroit, puis à tel endroit, ah tiens j'ai réussi à décrocher peut-être un tremplin de talent là. Et, et à force, je pense, d'abnégation totale, et on oublie, trop souvent on se dit bon, la vie va être simple, et on fait comme on est dans ce qu'on aime et ce pourquoi on pense être fait, eh bien ça va bien se passer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut, je pense, une abnégation sans faille, ne rien lâcher en permanence. Jamais j'aurais trouvé que c'était trop. Alors c'est une mauvaise citation, mais je vais te la faire, elle me parle, même si bon, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Mais comment dire, Nicolas Sarkozy, un jour j'entendais, disait en politique, on ne m'a jamais rien donné, j'ai toujours pris ce que j'ai eu. Et je me suis dit, moi je me faisais un parallèle en théâtre, je me dis mais moi c'est absolument pas ça que je veux. Moi je veux que les gens puissent dire on va te proposer ça, oui, tu vas faire ça, et c'est absolument pas je prends, ça veut dire que ça met du pouvoir dans tout ça, un volontarisme dans tout ça, et non. Mais le problème c'est que si tu mets le truc à l'envers, ça veut dire qu'on est toujours dans uniquement comme objet de désir d'une personne extérieure que l'on aime, réalisateur, metteur en scène, etc.
Ouais.
Et ça, la vérité, c'est que je pense que c'est faux. Il y a ça, mais pour être en position de désirabilité vis-à-vis de gens, la vérité, c'est qu'il faut faire des projets seuls, et qu'il y a des projets sur lesquels il ne faut pas se dire, c'est pas parce que je suis seul que j'ai l'impression de tout porter à bout de bras, que ça enlève quelque chose de l'importance de ce que ça a. Et du coup, eh bien, c'est suite à tout ce chemin-là qu'aujourd'hui, je peux faire des choses dans lesquelles je m'épanouis tous les jours.
Tu t'épanouis tous les jours et tu as du succès dans ce que tu fais.
Je m'y épanouis, donc pour moi, c'est le succès.
C'est lié. Didier Bourdon, il avait dit ça. Il avait dit, ouais, il y a le talent dans le métier, mais en fait, il y a surtout la persévérance. C'est qu'en fait, tous les mecs qui lâchent rien, c'est les mecs qui sont, au bout d'un moment... Peut-être on va voir un gars, puis on va pas le prendre, on va pas le prendre, on va pas le prendre, on va pas le prendre. Et au bout de 10 ans, on se dit, ah mais il y a ce gars, il est toujours là en fait. Et maintenant, on va le prendre. Et c'est comme ça que ça marche.
Je trouve ça très très juste. Et ouais, ça résonne encore plus maintenant. Mais j'avais parlé un jour d'une anecdote avec Didier Benureau que je trouve
oui, bien sûr,
brillantissime. Et j'ai eu la chance qu'on puisse avoir un échange. Et pour moi, c'était la définition, quand je le voyais dans les films, on lui a forcément, au vu de son talent, tout donné. Et quand j'ai vu que même lui aussi pouvait être volontaire et pouvait dire, tu vois, un jour j'ai rencontré tel réalisateur, je lui ai dit de venir me voir en spectacle, enfin quelque chose comme ça, ou pouvoir dire, pas faire sa pub, mais pouvoir dire, voilà, j'aimerais travailler avec vous et tout. Et je me suis dit, l'histoire n'est pas simplement... Nous, on voit les choses et on imagine quelque chose qui s'est passé. Non, la vérité, c'est qu'il faut être force de proposition, que c'est des deux, et que pouvoir exprimer en tant qu'artiste son désir pour aussi travailler avec des gens, faire des choses, c'est important. Non seulement c'est important, mais je pense que c'est un devoir. Et c'est peut-être pas glamour,
ouais,
mais c'est... Mais j'aimerais juste, Guigui, pouvoir enlever le côté fantasmant pour que peut-être si quelqu'un aujourd'hui vit ça à 20 ans, 30 ans, se dit j'aimerais faire des choses, arrêter de lui vendre, pardon, hein, mais c'était un casting, j'ai accompagné un pote et il se trouve que mon talent était tellement fort
c'est clair,
que je me suis fait repère.
Ouais, ouais.
Bravo! Chance, tu vois, j'envie Romain Duris d'avoir été remarqué dans la rue. La vérité, c'est que ses essais, ils sont canonissimes.
Ouais.
Mais bordel, non, à tous les gens de France, n'attendez pas d'être tous repérés que dans la rue, quoi.
Non, ce que je voulais dire à propos de ça, c'est aussi, il y a souvent des histoires de carrière où on dit, voilà, c'était le dernier jour. Là, j'étais à moins 5000.
Merci.
J'ai plus rien. Je me douchais, je pense, tu vois, je me douchais aux douches publiques, j'avais plus que dalle. Et là, je reçois un mail de Steven Spielberg, en fait. Et là, la vie change. T'es là, mais attends,
mec, mec, quoi ? J'ai repensé à une anecdote sur une personne comme ça il y a pas longtemps, où je me dis, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que tu te dis, du coup, je ne dis pas qu'il n'y a pas du vrai, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On peut, on peut rendre aussi la chose... c'est subjectif. Et surtout, ce qui fait, c'est que du coup, on se dit, mais... bon, moi aussi, je suis à moins 5000.
Ouais.
C'est le moment que ça arrive, du coup.
Et c'est le truc aussi ambivalent...
C'est hyper culpabilisant.
D'avoir des... Donc, évidemment, là, il y a beaucoup de gens qui font du stand-up. Et il y a un truc que je trouve aussi un peu malsain, c'est de dire... oui, t'as tous les grands, les Seinfeld et tout ça qui vont dire, oui, bah, pour réussir dans le stand-up, il faut prendre des fours, etc., etc. Pour moi, c'est faux, en fait. C'est faux. C'est pas vrai. Parce que t'as des gens qui disent, oui, je prends des fours, mais c'est normal. Du coup, ils se remettent pas en question. Un four, c'est une remise en question. C'est pas, faut prendre des fours, et c'est parce que c'est pas toi, en fait. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal de prendre des fours, en fait. Prendre des fours, ça veut dire que c'est pas marrant. Voilà. C'est ça. Donc, il faut changer ça. Il y a un truc de... Je sais pas, je trouve qu'on vend trop de, recettes de, non mais c'est normal, échoue, et puis à un moment ça va marcher. Non mais échouer, c'est pas échouer parce que c'est normal d'échouer. Échouer, c'est comme t'as dit, comme t'as fait ton 17 minutes, tu t'es dit, oula, c'est pas bon, ça demande un changement de direction. C'est comme ça qu'il faut réfléchir.
C'est exactement ça. Et puis après, quand on parle des fours, moi parfois les gens me disent, t'as dû prendre beaucoup de mon four. Non, la différence, c'est que moi déjà par rapport aux autres, j'ai pas de problème à en parler.
Ouais.
Parce que je trouve ça très noble. Hein. Je trouve ça très très beau d'ailleurs de raconter un échec cuisant.
Ouais, ouais.
Tu vois, raconter 17 minutes de tunnel où le lendemain je suis à la crêperie, où je remets en question beaucoup de choses, c'est vivifiant. Tu vois,
surtout, ça inspire des gens.
C'est vivifiant.
Ben oui.
Quand j'ai joué dans un camping en Corse et qu'après, que ça a été le moment, un des moments les plus compliqués de ma vie, mais qu'après ça, je me dis, j'ai entendu la musique que j'ai eue là, quand j'ai joué ce soir, ça a marché. Et là, pour le coup, ce que je veux dire, c'est que je sentais que j'avais fait des progrès techniques, qui étaient que je sais que ce n'était pas passé ce soir-là, je sais aussi pourquoi, pour le coup, pas que je me remets pas en question, mais que je sais qu'il y a un truc qui a changé et que putain, techniquement, je suis en train de devenir fort. Et je trouve ça génial qu'après ça, je me dis, on part d'un moment terrible et que je dis, le meilleur m'attend demain. Et que vraiment, je sais qu'il va m'attendre. Et il m'attendait en septembre. Eh ben, la question, quand les gens me disent, tu as dû prendre beaucoup de passages durs, four, bon, le mot est terrible, mais bah, la question est, j'en ai eu, mais est-ce qu'on peut. Du coup, pardon, je vais être extrêmement prétentieux, parler des succès que j'ai eus. Parce que à ce moment-là, il n'a d'intérêt le four que quand il est mis en perspective avec 4 triomphes.
Bien sûr.
Et donc, moi, quand on me dit ah, « quand c'est dur », mais moi, je ne m'inquiète pas quand je peux avoir, même encore aujourd'hui, un passage peut-être plus dur. Je ne m'en inquiète pas parce que ce que je souhaite aux gens qui me posent la question, c'est d'avoir les ups que je peux connaître. Pourquoi ? Parce que si on a un très très gros up, on aura un très très gros up. Peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, après-demain, c'est sûr. Avoir un très gros up veut dire que tu sauras l'avoir. Il faut être capable de le répéter, il faut être capable de le répéter le plus souvent possible, mais l'avoir, c'est l'avoir. Et c'est pas rien de l'avoir. Et c'est pas tout le monde qui l'a. Donc, il faut, d'être sur, comme tu dis, un passage difficile. Eh bien, alors, c'est normal, pas normal. Oui, bien sûr. Le pire dans tout ça, je crois que c'est simplement de perdre la connexion avec les gens. Moi, j'ai jamais pris de plaisir, même si j'aime bien travailler sur le malaise, etc. J'ai jamais pris de plaisir à voir ma salle être perdue. Et ne plus avoir le lien. Donc, ce qui est terrible, c'est pas tant, je crois, au final, parfois, de pas faire rire, c'est de ne plus avoir la connexion avec les gens.
Ouais.
Et c'est ça qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut avoir, développer, garder, conserver et partir en voyage le temps d'une heure. C'est être connecté au public.
C'est grandiose, hein. Hey, t'es très généreux. Tu m'offres beaucoup, là. C'est magnifique. Merci à toi.
Sans être payé.
Hein. C'est vrai, ça. T'es payé en amour, c'est bien, non?
Ouais, c'est ça.
Bon, ok. Eh bien, je te propose qu'on continue cette chanson pour voir où elle nous mène. Puisque, comme on monte sur scène, comme on prend le dernier train, il y a des questions un peu plus légères. Par exemple, tu préfères le train ou l'avion?
Bah, je préfère le train déjà parce que ça fait de moi quelqu'un de bien.
Ouais.
J'aime beaucoup le train. Je le prends essentiellement. Maintenant, l'avion, ça devient. Comment dire, on ne peut plus prendre l'avion aujourd'hui comme on le prenait hier pour des questions évidentes d'écologie.
Oui, bravo.
Mais l'avion, c'est un des sentiments que je n'ai pas dans le train, qui sont des sentiments de joie que je peux avoir à la hauteur de la peur de la mort que j'ai sur les 14 premières secondes du décollage. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, je ne vais pas te mentir, j'aime aussi prendre l'avion.
Très belle réponse. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut. Alors oui, tiens, ça va rejoindre un peu ce qu'on se disait. Parce que je sais que ça t'est arrivé récemment avec, évidemment, l'actualité qu'on sait qui est désastreuse. Comment on fait rire les gens quand on n'a pas envie de rire ? Est-ce que t'as un rituel ou un truc, ou comment tu fais pour te...
Il faut que tu développes. Qu'est-ce qui s'est passé d'un...
Non, mais... parce que je suis venu te voir en spectacle et quand on s'est retrouvé, tu m'as dit ouais, ce soir, j'ai pas envie. Il y a des soirs où on n'a pas envie.
Ouais, voilà, c'était le 10 octobre.
10 octobre.
C'était compliqué. C'était très dur. C'était. Bah, comment en te voyant, en en parlant, en le disant. En le verbalisant, ça a été très compliqué. Je me rappelle aussi quand j'habitais Lyon encore à l'époque, jouer en France pendant les attentats. C'est terrible parce que dans ces moments-là, on se dit bon, d'une certaine façon, on ne peut pas ne pas en parler. Comment le faire comprendre ? Et en fait, il faut marcher sur un fil parce qu'on reste un spectacle comique pour des gens qui ont pris un billet à ce moment-là. Donc, on ne peut pas démarrer non plus en...
Oui, mais ils viennent se changer les idées.
Ils viennent changer les idées. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de pouvoir rester sur ce qui nous rassemble à ce moment-là. Essayer c'est pas oublier, c'est se dire on va faire. Et je pense qu'il y a plein de façons, grâce à l'humour, de pouvoir, pendant le spectacle, à un moment, selon le moment, selon ce qu'on vit, parce que le public est fondamental, c'est la moitié de c'est pas le 12e homme de l'équipe de foot, hein, c'est le 2e homme.
Ouais.
C'est une équipe à part entière, on est deux, il y a l'artiste, le public, et puis c'est peut-être essayer de pouvoir dire avec une pudeur que tout le monde puisse comprendre qu'à ce moment-là, plus que jamais, on a besoin d'être ensemble, que c'est pas forcément simple d'être là où on est à ce moment-là, mais c'est pas forcément simple pour tout le monde. Je sais pas, j'allais dire d'essayer de le nommer, mais avec pudeur, pour pas être didactique et pour pas être trop lourd, ouais. Parce qu'on n'a pas besoin de ça et que tout est déjà très lourd à ce moment-là.
Mais il y a un truc, enfin, je sais pas, moi j'ai un peu de mal avec ça. Avec ce, dès qu'il y a un truc d'actu qui est très très lourd, j'ai l'impression qu'il y a une vague de stand-uppers qui vont faire des vannes dans la journée pour pouvoir les publier sur les réseaux. Ça devient un peu malsain. Je trouve ça très malsain maintenant.
Bah, c'est très malsain parce que
il faut être le premier à avoir la vanne, alors que moi je suis pas d'accord forcément avec ça.
C'est exactement ça, parce qu'à ce moment-là il y a une donnée qui s'appelle le temps. Je sais pas, on va pas voir quelqu'un qui vient de vivre un moment difficile de sa vie après une rupture, après un licenciement, etc., en disant tu vas retrouver un boulot, tu vas pouvoir faire ce que t'aimes. Il me semble qu'à ce moment-là, dans la vraie vie, on va lui dire mais ça va, bah, comment ça s'est passé, et toi tu le vis comment. Ok, pourquoi ce serait pas la même chose pour le temps de la blague?
Ouais.
C'est exactement la même chose à ce moment-là. Avoir une vision commerciale, et je te dirais même pas vision commerciale, parce que je pense que les gens qui le font vont se dire non mais on n'est pas hypocrite, etc., on le fait parce que c'est notre devoir. Je pense qu'il y en a qui sont investis d'une mission, mais écoute, moi je peux pas parler pour les gens à leur place par rapport à leur mission. Ce que je sais, c'est que moi moi j'adore une phrase de Robin Williams qui disait souvent les gens ou quelqu'un avait dit par rapport à Robin Williams, il faut savoir comment les artistes et les humoristes peuvent être extrêmement fragiles. Ils prennent une très grosse charge, ils prennent la charge de la société sur leurs épaules par rapport à la notion de catharsis, etc. Et c'est vrai qu'il y a une charge qui est prise, il y a une part. Moi, je prends ma part, je ne prendrai pas toutes les parts. Donc, je prends ma part, je suis pas là pour dire que les gens, je suis investi d'une mission où les gens ont besoin. Non.
Ouais.
Moi, je vais arriver, je vais faire parler de moi, de passer pour cet égocentrique. Mais en espérant qu'à un moment, en parlant de moi, il y a quelqu'un qui puisse dire bah, « Tu sais, ça m'a fait écho, c'est aussi universel ce que tu racontes. » Voilà, j'ai fait ça, j'ai très bien fait, je peux rentrer chez moi.
Mais on est d'accord que parfois, dans le décorum, on en fait beaucoup trop par rapport au rôle du stand-up, de l'humour, etc. Parce que je pense qu'au final, ça reste des blagues. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors, oui et non, tu vois, parce que Guy, le fait de dire ça reste des blagues, ça pourrait dire, ouais, mais que c'est des blagues, ça n'est pas plus important que ça. Ah, pour moi, elle est très importante, la blague.
Oui, non, mais
elle est très profonde.
Par rapport à l'ego de l'humoriste. à dire, tu sais, tous ces gars qui sont, ah non, mais nous, on a une mission, on est là pour...
Eh ben, c'est ça. Sur cette mission, je suis d'accord.
En fait, et... ça, vous faites des blagues, voilà.
Et exactement. Et la mission, c'est pour ça, encore une fois, quelle part la personne a décidé de faire. Ça dépend vraiment, vraiment du truc. Il faut être très, très au clair, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas le temps qui peut permettre de nous dire, bon, ben voilà, moi, je sais, je suis un humoriste, poétique, engagé, pas engagé. Oui. Moi, j'essaye d'être en cohérence avec mon humour. Moi, tu sais, Guigui, quand tu me disais...
Peut-être que je ne fais pas d'humour engagé.
Moi, pour moi, parler de rien, d'essayer de le faire de belle façon... si on peut y comprendre que la vie est absurde,
oui,
que ça n'a aucun sens, mais qu'en essayant de le prendre comme elle nous traverse, c'est ça la belle vision de la vie, je trouve que c'est un engagement.
Ouais.
Mais les gens le prennent s'ils veulent le prendre. Donc, c'est pas que je suis pas engagé, c'est que je ne pense pas que si quelqu'un... Moi, quelqu'un arrive et me dire, attention, Guigui, le réchauffement climatique, c'est important. Aujourd'hui, nous deux... Je m'en méfie. Je me dis, il y a un vrai, vrai problème. Parce que si on arrive et que quelqu'un me dit, le racisme, c'est non. Il ne faut pas être raciste. Je me dis, mais la personne va me dénoncer dans 2 minutes. Quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est... on a à dire ça ? Tu me fais très peur.
Ouais.
Quelqu'un qui va arriver et qui va dire, j'ai des valeurs. Je suis quelqu'un de tolérant.
Oui, non.
Bon,
ouais,
mais je sais que cette personne, faut que je prépare mes bagages.
Ouais.
Donc, c'est pas possible. Moi, ce que je sais, c'est que quand j'avais 19 ans, je te parlais de tout à l'heure, etc. Moi, mon rêve, déjà, ça n'a jamais été les gens qui font du one man show et tout qui m'ont. J'ai jamais voulu faire ça. Hein. Je me suis jamais dit, ah tiens, lui c'est ma star. Tu vois, j'adore rire. Je vais pas bien, je vais rire pour aller mieux. Pas ce que je fais. Tu vois.
Ouais.
C'est donc moi ce que je voulais, c'était, j'étais devant ma fenêtre et j'étais là. J'ai dit un jour, j'espère que je pourrai rentrer dans une pièce de théâtre de boulevard et dire, Madame Bernard n'est pas arrivée. Parfait, de mieux en mieux. Et là, je suis sûr, les gens y riront. C'est ça que je voulais.
Toi, tu veux faire du théâtre de boulevard.
Je veux faire ça. Je veux pouvoir arriver que si à un moment dans le film, on a cette scène-là, qui ne veut pas dire que toutes les scènes soient celles-là, mais qu'il y a celle-là, et que les gens aiment ça, comprennent ça, et se disent, c'est parce que j'aime ce surjeu-là que quand il va jouer, je vais le suivre surtout, eh bien, j'aurai accompli ma mission pour le coup. Mais moi, la mienne, elle est là.
Putain, trop bien. Elles sont trop bien tes réponses. Je pourrais t'écouter pendant des heures. Et j'avais une question, mais je crois que je sais. T'as pas de rituel avant de jouer, pas du tout. T'es pas superstitieux de rien.
Non.
Tu fais juste, tu bois un coup d'eau.
Je ne mange pas.
Tu ne manges pas.
Je ne mange pas avant. Et j'en ai pas. Je décide de pas en avoir.
T'es pas genre, ah, les tiroirs ouverts, je peux pas. Tiens, les rideaux rouges, j'aime pas.
Non. Après, que je sois pas du tout superstitieux, je pense quand même que je peux avoir des petits trucs, tu vois. Je peux avoir des stress, tu vois. Je me dis, par exemple, tout à l'heure, tu me parlais de mon pull, on peut pas citer les marques.
Si, on peut.
Mais culte, tu vois, oui. Par exemple, eh ben, c'est vrai que je me disais, mince, là, le logo, il est trop écrit gros, mais j'avais pas de t-shirt qui était repassé ce jour-là, et tout, etc. Eh bien, je me dis, mince, les gens, ils vont checker que le pull, ouais. Rester que sur le pull, et ça prend tellement de place que ça va prendre le pas de ce que je vais faire. Je crois que ça veut dire que j'ai peur, mais c'est bien. Ça veut dire que ce que je fais est important.
Oui, c'est vrai.
Mais ça pourrait être apparenté à une superstition, mais c'est pas celle de... Moi, je me suis dit, tiens, c'est le seul moment de ma vie où je suis libre à ce moment-là, quand je démarre à 20 ans, etc. Je me suis construit en me disant, ce sera un espace de liberté, il ne faut pas que je me remplisse de quelque chose. Pour autant, moi, tu vois, si je ne mange pas avant, c'est parce que je me dis, comme ce n'est pas un moment normal, je ne peux pas avoir un moment... Je ne peux pas faire un truc normal de vie à ce moment-là qui n'est pas normal. C'est pour ça que je m'oblige à ne pas manger. Donc, c'est pas, je ne sais pas si c'est une superstition, mais c'est pour dire, je veux arriver de façon très normale, mais j'ai quand même préparé mon petit rituel de façon à ce que mon logo ne soit pas très important, que moi, je prenne toujours le pas et que je n'ai pas mangé pour être dans l'axe que ça va me payer, me servir et être payant. Quoi.
Très bien. Eh bien. Écoute, la prochaine parole, pour toucher les femmes qui me tendent les mains. Ma question, c'était...
Waouh.
Ouais, comment on fait avec ça? On fait une question à propos de ça ou pas? J'ai une question pour toi.
Oui.
Mais alors, elle est très vaste. Et je sais que, de toute façon, tu ne... Voilà. Mais...
Tu ne...
Attends, écoute. Est-ce que tu sens que la scène, ça t'a aidé à pécho?
Ce que je sens, c'est que quand j'ai démarré, j'ai vu que... après qu'on m'ait vu jouer... je n'étais pas considéré, vu comme le même qu'avant d'avoir joué.
Ouais.
J'ai pu le voir. Mais je pense que ce n'est pas la question de la scène. C'est la question du costume et de la fonction. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose que le pompier.
Que le DJ, si je peux me permettre.
Que le DJ.
Ah, moi, j'en connais un bon rayon.
Et que le serveur.
Ouais.
Donc, c'est un jeu social d'une fonction où la personne peut fantasmer quelqu'un par rapport à la fonction. Le tout, c'est de le savoir, de pas en être dupe.
Oui, ce qui est très étrange.
Donc, est-ce que ça m'a aidé à pécho? Bah, quand j'étais jeune, parce que voilà, à ce moment-là, j'étais célibataire, que je puisse voir que... apparemment, quand je joue, je me transformerai, je serais vu comme... pas pareil, apparemment, je m'embellis et tout, etc. Mmh. Bah, c'était flatteur et ça voulait dire ça, mais... Oui, l'artiste, il aura toujours... mais ça ne peut pas être sur le stand-upper. C'est global et je pense que c'est un jeu social.
Très bien. Eh bien, écoute, la question qui suit, c'était les femmes qui me crient qu'elles-mêmes et dont je ne sais rien. On en parlait juste à l'instant. J'imagine que tu reçois beaucoup d'amour sur les réseaux. Beaucoup de gens qui disent que t'es trop drôle, etc.
Oui.
etc. Beaucoup, beaucoup.
Oui.
Mais est-ce que tu as déjà reçu des messages ou des commentaires hostiles?
Oui, bien sûr.
Ouais. Oh. Trop bizarre, parce que j'arrive pas à visualiser des gens qui pourraient dire des trucs sur ce que tu proposes qui seraient
hostiles. Alors, attention, hostile, attention, parce que j'ai reçu des messages hostiles qui sont pas par rapport. Il faut te distinguer deux choses.
Vas-y.
Par rapport à, je t'ai dit, le 10 octobre, j'ai eu du mal à jouer
oui.
Par rapport à ce qui s'est passé sur la planète trois jours avant. J'ai témoigné sur les réseaux La tour Eiffel a été à ce moment-là étoilée ce soir-là. J'ai partagé mon émotion en partageant cette story. J'ai eu des commentaires hostiles par rapport à ça. Ça, ce sont des commentaires hostiles qui parlent d'une origine ethnique de quelqu'un. En raison de ça, on n'est pas sur l'artistique.
Oui.
Mais j'ai vu ce que c'était.
Des commentaires qui disent la vérité. Tu ne devrais pas partager ça, par exemple? Enfin,
c'est des commentaires qui sont extrêmement violents. Et tu sais, la vérité, c'est qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on a un peu peur. Moi, je ne vais pas rentrer dans un truc. Je partage un moment, je suis dans un restaurant. Il y a une inscription qui témoigne de la nationalité de ce restaurant. J'en sais rien comment dire. Et à ce moment-là, je reçois des messages qui sont à la limite de tomber sous le coup de la loi. Écoute, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, le climat, il est tendu. Maintenant, pour revenir sur les messages, les commentaires, il n'y a qu'à voir les commentaires de vidéos. Bien entendu que des gens vont dire
des gens qui disent,
que
ouais, je ne suis pas drôle. Pas marrant et tout, ouais.
Mais Guigui, bien sûr, j'en ai. Ça fait, je crois, je ne sais pas comment te dire. Il y a toutes les théories. Alors, à un moment, je répondais à tout le monde de façon drôle. Et j'entendais quelqu'un, un attaché de presse à l'époque, qui disait qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait laisser. Donc vraiment, je n'ai plus jamais répondu. Le problème, je parlais avec Urbain de ça, qui me disait non, au contraire, il faut répondre, c'est très important. Et en même temps, tu sais, c'est terrible parce que parfois, je me lève, je vais tomber sur mon téléphone, le premier truc que je vais voir, une notification où ça va être un message de hater, etc. Et tu as envie de dire, écoute, il est 7h30,
ouais,
tu me dis qu'il faut que j'aille me faire enculer, je vais te faire très mal en fait. Tu
ouais,
vois
ouais.
J'ai envie de monter une équipe sur toi, tu vois. C'est d'une violence. Parce que ça vient d'une intrusion à n'importe quel moment. Les gens pensent qu'on est une entité qui n'est pas humaine et qui ne réagit pas. Plus tu es un peu exposé, plus tu en reçois.
Mm.
Ça fait mal. La seule chose que je peux dire, c'est que je la convertis dans mon spectacle, en expliquant un moment dans mon spectacle, voilà, les gens qui font, on fait un métier où on est exposé au jugement. Le pire que j'ai entendu, c'est, et j'en fais un sketch rigolo dessus. Moi, ce que je sais, c'est que je vais te dire une phrase. Les gens qui peuvent trouver que je suis pas drôle, je les comprends.
Ah bah oui, bien sûr.
Je les comprends. Il n'y a aucun problème. Il faut bien expliquer quelque chose. Aujourd'hui, c'est très violent sur les réseaux. Quand, même pour nous, en tant que spectateurs, c'est violent. On est à une époque où on propulse quelqu'un, on lui fait dire 25 secondes de choses. Il prend tous nos écrans pendant 4 secondes. Les gens se disent « Attends, moi, si j'ai rêvé, peut-être qu'on parle de moi. On ne parle pas de moi, on parle de lui. Je le trouve nul, je vais lui dire. » Mais on nous balance quelque chose. La vérité, c'est que ces extraits-là, ils sont à la 50e minute de notre spectacle qui fait 1h15. Ils sont amenés. Vous savez quoi ? Ayez une démarche. Lisez des livres. Renseignez-vous sur les sujets qui parlent, sur lesquels vous voulez avoir un avis, autre que les chaînes d'infos en continu. Venez au spectacle. Regardez. Payez votre place. Tu sais, moi, la vérité, j'adore payer des places pour voir des spectacles que je n'aime pas et que je défonce dans ma tête. Parce que un truc que je n'ai pas aimé m'aide. Ça me construit. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? À part de faire de l'audience, à part de combler sa frustration, d'arriver et de dire « c'est pas parce qu'on est propulsé qu'on pense qu'on a le monde à nos pieds ». Donc, c'est terrible, ça fait très mal.
Mais c'est ambivalent parce qu'on propose des choses aux gens et on aimerait leur dire « par contre, donnez pas votre avis ». Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils ont le droit de dire « non, c'est nul ». Tu comprends ? Sinon, on est en train de leur dire...
Je crois que ce n'est pas la question.
On est en train de leur dire, ouais, regardez ce que je fais, mais dites-moi uniquement si c'est bien. Tu vois ?
Bah, je ne pense pas parce que si tu veux... Moi, comment te dire, un jour, je suis passé, j'ai joué dans un comedy club et puis j'ai parlé, je suis allé voir des gens et j'ai dit, alors vous avez passé une bonne soirée, ça vous a plu ? Et la personne m'a dit, écoute, moi je vais te dire quelque chose, c'est pas du tout mon style d'humour. Et elle me l'a dit devant ses 7 amis.
Ouais.
La question à ce moment-là, est-ce qu'elle a raison ? Est-ce qu'elle a le droit, déjà, de que je ne sois pas son style d'humour ? Oui.
Oui.
100 fois oui. Est-ce qu'elle a le droit de pouvoir le dire ? Donc, de le penser, de le dire, 100 fois oui. Mais la question est... je ne suis pas venu demander un avis sur ma presta. Je suis venu dire, vous avez passé une bonne soirée, on était 5. Et tu le dis devant tes 7 amis qui écoutent, il y a un sentiment. Et moi, je l'ai dit, il faut que tu saches une chose. C'est humiliant.
Ouais, c'est vrai que c'est humiliant.
C'est humiliant. C'est-à-dire que moi, je suis humilié à ce moment-là. Mais après, qu'on ne vienne pas me casser les couilles et venir me dire « Non, mais mec, tu ne supportes pas la critique. » Déjà, j'aimerais que tous les gens qui disent « Non, il faut accepter », j'aimerais qu'on les voit, eux, quand ils reçoivent une critique et savoir quelle est d'abord leur première forme. Est-ce que c'est le déni ? Est-ce que c'est l'autoprotection ? Qui sont ces gens qui disent « Ah non, mais moi, j'adore la critique. C'est constructif, c'est constructif. » Qui sont-ils vraiment ? Comment ça se passe dans le temps ? Attendez, il faut un reportage de Mireille Dumas pour savoir vraiment comment ça se passe.
Et si je peux me permettre, t'es pas mon style d'humour. C'est pas une critique. C'est une critique, c'est dire, tu vois, à ce moment-là, j'ai pas aimé. Ça, c'est mal construit. Ça, c'est truc. Ça, c'est une critique.
Mais là, c'est pas. Là, en plus, là, c'est pas du tout. Là, c'est mal construit. C'est, j'ai pas du tout aimé. Oui, c'est pas mon style. J'ai pas du tout aimé. Mais encore une fois, de le dire devant cette personne, moi, à ce moment-là, si la personne est seule devant moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, à ce moment-là, la température change parce qu'il y a 8 personnes. Et il y a une chose qui est très, très claire. Je me suis exposé devant 100 personnes il y a 10 minutes. C'était ce que c'était. Je peux tout à fait entendre qu'à ce moment-là, ça ne plaise pas. Par contre, que devant 8 personnes, on me dit ça et que les 8 entendent ne puissent rien dire, que la personne sait qu'on l'entend, je voudrais juste pouvoir dire... Et ça, c'est aussi pire, tu sais, c'est Benjamin Laverne, il a une vidéo magnifique dans laquelle ils disent « Et les gens qui, quand on vient de sortir du théâtre, nous regardent, nous fuient et ne parlent pas, qu'est-ce qui vous arrive ?» Ça n'est pas grave.
Ça n'est pas grave.
Vous pouvez parler, vous pouvez dire bonsoir, vous pouvez dire, si vous dites bravo, vous pouvez dire bravo pour la performance d'être monté sur scène. Vous ne vous trahirez pas en ne disant pas « Ah non, mais moi, je pense exactement ce que je dis, etc. » C'est juste que à ce moment-là, devant des gens. Donc, il y a mille choses. Et donc, on a des familles, on a des amis, on a des entourages qui nous voient, qui voient les commentaires. Donc, ça, plus ça. Alors, c'est vrai qu'on propose quelque chose, t'as raison, donc les gens vont peut-être se dire mais qui sont ces gens ? Les porte-étendards remettre l'artiste à sa place pour pas qu'il croie qu'il était allé trop haut. Moi, je vais te dire un truc, il y a un truc qui est très clair, on nous voit peut-être sur des vidéos, etc. La vérité, c'est que c'est le chiffre des ventes. Tant que le public n'a pas adopté quelqu'un, on le sait où on en est. Hein. Ouais, on le sait. Ouais, moi, je sais bien où j'en suis dans ma carrière. Et alors, crois-moi que je sais que je suis, un, loin d'être arrivé. Deux, j'espère rester toute ma vie dans cette position. Donc, et si un jour, je connais un grand succès public, j'aurai un succès d'un certain public qui me reconnaîtra, lui, un talent, qui ne voudra pas dire que je les ai tous et qui n'enlèvera rien aux autres et rien à ceux qui ne sont ni dans la salle ce soir, ni à ma place sur le plateau.
Bravo. Alors, vous ne le voyez pas, mais il ne fait pas des mic drops, mais à chaque fois qu'il fait une belle phrase, après, il se penche. Bravo, tu parles trop bien. Alors, on enchaîne avec la prochaine parole, parce que ce n'est pas fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais crier... Est-ce que tu es fatigué et plus globalement ce qui te fatigue dans la vie ? Je pense qu'on l'a un peu dit là en ce moment, c'est peut-être ça au final. Et est-ce que tu as souvent envie de crier, manifester ? Est-ce que tu as un côté militant ? J'ai pas l'impression.
Absolument pas. Je pense, de par ma famille, etc. ou familialement, bon, beaucoup de choses qui peuvent tu vois, expliquer. Mais c'est pas, je fais ma révolution à moi. J'essaye de me révolutionner moi pour essayer d'être meilleur pour la société le lendemain. Mais par contre, d'être militant, c'est dur hein, de me positionner en eux font le bien, eux font le mal. Il se trouve que moi, je suis particulièrement manque de peau, je suis quand même dans le camp du bien. Écoute, ouais. Non, j'ai pas ça, mais un jour j'en ai parlé à mon père, je lui disais, écoute, nous on n'est pas comme ça et tout, il me disait une très belle phrase, il me disait, écoute, tu sais quoi, c'est vrai, mais heureusement qu'il y a des gens qui le font pour nous en fait, hein, parce que heureusement qu'il y a des gens qui manifestent, heureusement qu'il y a des gens qui se battent, parce que si on a des choses, c'est aussi grâce à eux que je trouve que c'est la meilleure réponse.
Hein. Ouais, c'est vrai, bravo. Et donc on arrive au refrain, je ne suis pas un héros, est-ce que tu as des héros ?
Oui.
Oui, un nom. Tu peux dire moi, mais c'est pas obligé.
Non, c'est pas toi que je pensais.
Merci.
Roberto Benigni.
Ah oui, exceptionnel.
Ouais. Ah, c'est mon héros. On est né le même jour.
Ah ouais ?
Ouais.
Ok. Ah oui, donc c'est vraiment un artiste que tu connais bien, quoi.
Je le connais. Je connais pas toute sa filmographie, mais je le connais depuis des c'était un spectacle à sketch qui était sur Canal, mais vraiment dans les années 2000. C'était les premiers sketchs de Roberto Benigni. Il s'appelait Tu mi turbi, et ça veut dire tu me troubles. Et il y avait des sketchs de lui qui sont hilarants. C'est des premiers sketchs. Il est un moment avec dans une situation où il est avec son amante. Il est chez un médecin. Il est en train d'être garde. Ça passe dans le visage. C'est quand il est muet, quand il parle. Il est tout ce que je voulais. Il est mon héros parce qu'il est drôle en étant émouvant. Et ouais. Moi, je dis pas que je suis. Hein,
ouais, ouais.
Mais lui, il est drôle. En étant émouvant. Et donc, après, j'avais, bien sûr, La vie est belle. Pinocchio. Beaucoup de gens ont critiqué son Pinocchio. Moi, j'allais voir tout de lui. C'est, ouais. Et puis, j'ai un regret, c'est que j'habitais Lyon à l'époque. Il jouait au Théâtre Tête d'Or. C'est un théâtre privé. Et la place était, j'étais étudiant. La place était à 50 euros. Elle était beaucoup trop chère pour moi à l'époque. Et il faisait des lectures de Dante. Et je me suis dit, putain, j'aimerais tellement aller... Et j'y suis pas allé parce que c'est cher. Et je me dis, mais enfin, à l'époque, j'aurais demandé de l'argent, ma famille me l'aurait donné et tout, etc. J'ai un regret parce que je me dis que c'est la seule fois. Il y a des gens qui ont été là à une finale de Coupe du Monde. Et moi, j'aurais pu dire que j'ai assisté à un spectacle vivant de Roberto Benigni. J'ai beaucoup de regrets de pas m'être forcé à aller à cette représentation.
Deuxième question à propos du refrain. Mais faut pas me coller à la peau. Est-ce que tu as une belle peau ? Est-ce que tu as une morning routine ?
J'ai pas besoin d'avoir une morning, j'ai une bonne peau, une belle peau.
Très belle peau.
Une belle peau. J'ai jamais eu d'acné, jamais eu de problème ça. Tu en as eu ?
Moi j'en ai eu.
C'est vrai ? On Nash, dirait pas du pas tout. Eu.
Ah ouais ?
On dirait
j'en
absolu.
Ai eu vite fait quoi. Enfin j'ai eu des stars d'ado quoi.
Mais moi j'ai pas eu ça.
T'es bon toi.
Je n'ai pas eu ça. J'ai un copain, Benoît, mais on n'est pas là pour regarder. Il avait énormément de boutons, des gros problèmes sur sa peau. C'est un de mes meilleurs amis.
C'est triste.
Il a énormément souffert de ça. Tu veux que je te dise, je ne l'ai pas aidé.
Tu l'as vanné ?
beaucoup.
Aïe. Je ne suis pas un héros, il ne faut pas croire ce que disent les journaux. Est-ce que tu lis le journal? Est-ce que tu t'intéresses à l'actu ou pas vraiment?
Je m'intéresse à l'actu, mais sur les sites internet.
Pas du tout le journal?
Très peu.
T'as déjà été abonné à des magazines?
J'ai été abonné et je crois qu'à l'époque, on m'avait offert le Nouvel Obs.
Ah ouais? Le truc de... T'es quand même un intello, quoi.
C'était un peu ça, ouais.
Tu te la pètes ou pas? Enfin, c'est une question.
C'est-à-dire?
Bah, quand tu me réponds comme ça, là, quand tu me regardes...
Ah non, c'était sincère.
Ok, très bien. Bon.
C'était hyper sincère.
Bah, t'es imbuvable.
Que les gens entendent que je rigole, bordel, mais je sais pas. Oh, putain, quand tu fais ça, Guigui, je te trouve brillantissime.
Oh, merci. Attention, on arrive bientôt à la fin. Écoutez-moi bien. Oh, il me fait des wads. J'hallucine. La moutarde me monte au zen. Alors, quand les cris de femmes s'accrochent à mes larmes, je sais, j'ai une question pour toi.
Oui.
Est-ce que tu pleures facilement?
Non, pleurer facilement, c'est quoi? Tous les jours, moindre émotion.
Tu pleures, tac, un petit film, boum, ça te fait pleurer.
Non, mais je pense pas que je pleure facilement.
Okay.
Par contre, je pense que j'ai aucun problème pour le faire et pour le reconnaître, quoi, tu vois. Après, j'ai la larme pudique, hein. Parfois, je peux la réfréner et tout. Ça dépend vraiment de l'événement.
C'est quoi, plus je vieillis, plus je pleure.
Mais je trouve ça hyper agréable en plus.
Ouais, moi aussi. Je regarde des films, même parfois c'est même pas des films, parfois c'est des reportages.
Ouais.
Et
moi, tu sais, avant, parfois, je réfléchissais à des situations de gens autour de moi qui comptent pour moi. J'imaginais qu'ils étaient morts, je pleurais et j'éprouvais du plaisir. Et quand j'ai raconté ça à d'autres gens qui sont spécialisés pour écouter ces trucs-là, ils me disaient non, mais ça passera, je pense. Ça va. Enfin, ce serait bien que ça passe. Donc,
c'est pas ça comme truc.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'imaginer vraiment quelqu'un qu'on connaît qui soit dans le truc. Mais tout ça pour te dire, moi je pense que c'est important de savoir lâcher ses larmes.
C'est vrai.
Et il y a des larmes de joie. Hein.
Ah oui.
Le fou rire peut te provoquer des... Là, c'est les plus belles. Hein.
Toi, tu rigoles tous les jours.
Bah heureusement que je me fais rire énormément. Moi, je vais te dire, je suis une putain de compagnie pour moi-même. J'ai pas de problème avec ça, je m'adore. Donc.
Attention, alors là, c'est intime. Hein. T'es prêt?
Allez, vas-y.
Que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Est-ce que tu as déjà vécu un chagrin d'amour?
Bien entendu.
Oui. Mais un gros chagrin d'amour?
Oui.
Oui.
Bien sûr. Dis aux gens les gestes que tu fais qui veulent dire. C'est quoi?
Des gestes qui veulent dire, bah, développe.
Écoute, c'était mon premier amour.
Oui.
Ça a été un chagrin terrible. Terrible. Où je me suis dit, mais comment je vais pouvoir vivre à nouveau?
Ah ouais?
À ce moment-là.
Ah ouais? Ça a duré combien de temps?
Je pense que ça a duré 6 mois, 1 an.
Non mais la relation, elle avait duré 6 mois, 1 an.
En plus, non. Elle a duré ça, elle a duré 6 mois, et ça a duré 6 mois, 1 an. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était peu de temps après avoir quitté la Corse. Je pense,
ah oui.
Je pense aussi qu'il y a plein de choses. C'est que ce qui permet notamment le premier amour et le chagrin d'amour, c'est tous les trucs qu'on a emmagasinés comme fonctionnement où on mélange beaucoup de choses et où on sait plus trop où on en est, qui est un moment où pour le coup on déverse beaucoup de larmes, c'est très douloureux, mais ça peut être le début si on travaille un peu ce moment-là et ce temps-là. Un temps travaillé qui peut permettre d'essayer qu'à l'avenir, il pourra y avoir des peines, mais on l'espère de grandes joies et que le meilleur, au final, reste à venir.
Mais qu'est-ce qu'il est fier de lui à chaque fois qu'il finit de parler, c'est insensé.
Tu veux pas dire ça,
frérot. Il me fait trop rire. Il me regarde, après il se tourne. Non, mais... Ah putain. Excuse-nous, hein. Mec, c'est grand corps malade, le gars. Il nous fait un slam à chaque fois. Bon, attends. Ok, bah merci, c'était beau. Hein. Alors, oui, on arrive à la fin, là. Je me dis qu'elles rêvent et ça leur fait du bien. Bon, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que c'est le rêve qui te reste à accomplir? Parce que là, le succès, c'est bon, les femmes, c'est bon,
Non, la attends, thune, le succès.
La thune, c'est bon ?
Non, mais, bah, alors, pas, bah, alors, pas du tout, en fait. Bah, pas du tout. J'ai deux rêves.
Oui.
J'ai un rêve en tant qu'humain dans une société, donc un rêve qui est collectif et un rêve qui est plus individuel.
Oh, alors, j'attends la suite. On me dira une Miss France, mais je t'écoute.
Tu pourras rajouter une musique à ce moment-là. Tu avec... pourrais mettre une instru.
Mais je te la mettrai au montage.
Tu la mettrais au montage parce que là, ça me porterait. Hein, si tu mettais une instru.
Tu veux quoi comme
fait,
instru?
Tu mets instru musique triste. Écoute, à l'heure où on fait cette interview, il y a beaucoup de coins sur la planète où il y a des gens qui peuvent pas faire des interviews ou qui peuvent pas les faire de façon sereine. Donc moi. J'espère que déjà collectivement on puisse trouver beaucoup plus de paix. J'espère qu'on pourra sortir de sa petite identité, de son origine, de sa religion et qu'on puisse se retrouver sur des choses qui sont fondamentales pour que tout le monde puisse sur Terre avoir une dignité, vivre sa vie, que on puisse tous faire ça, ça reste quelque chose de collectif parce que la Terre est à feu et à sang, elle est à tous les niveaux, elle l'est métaphoriquement, elle l'est physiquement et elle est avec tout ce qui se passe. On en a parlé tout à l'heure de façon elliptique, les gens comprendront ce qu'ils voudront comprendre. Donc ça, je peux pas m'empêcher d'émettre ça parce que on a dit tout à l'heure, c'est le mot de la fin, quand moi je jouais pendant les attentats, etc., on a rejoué là. La vibe, tout est chargé, donc tout ce qui se passe de partout est avec nous, donc on n'est pas une entité indépendante de tout, donc pour nous tous c'est ce que je nous souhaite et à titre individuel et ben c'est ce que je raconte dans mon spectacle où j'espère, ma foi je suis aussi là pour ça, que les gens viennent le voir au Palais des Glaces. C'est juste raconter que dans mon spectacle je raconte que j'ai toujours rêvé de faire du théâtre et que mon rêve c'est de faire du cinéma mon rêve c'est de pouvoir m'éclater à faire des projets où je puisse montrer autre chose que ce que les gens peut-être sur une première impression ont eu d'un gars un peu loufoque qui semble en faire des tonnes. C'est de pouvoir je vais le dire égoïstement puisqu'on est là pour dire son rêve, que je puisse avoir mon Ciao Pantin, non pas pour avoir mon César, mon Molière, j'en sais rien, mais pour pouvoir avoir un film dans lequel je puisse montrer quelque chose de différent, de tendre, de passionné, de juste, de différent. Et ben j'espère que je pourrai toujours continuer à faire des projets avec des gens qui m'inspirent, que je trouve inspirants et que j'ai la chance qu'en ce moment ils puissent s'intéresser à mon travail. Ça, ce sera le rêve que je me souhaite à titre individuel.
Incroyable, mec, c'est fou. Et tu sais que je m'attendais pas à ce que tu sois aussi bon. C'était un peu là, je vous cache pas. Au début, il me dit ah mais quoi, je vais devoir me livrer, je vais devoir parler, etc. Oh là là, mais je m'en régale. Je pourrais t'écouter pendant des heures. À coup de poing dans l'âme, j'ai trouvé la flamme qu'il faut pour me rendre célèbre. Il ne faut rien emporter. Est-ce que la célébrité est un but pour toi?
Non.
Pas du tout. Non. Et quel rapport entretiens-tu avec la célébrité qui arrive en ce moment? Puisque comment tu te sens maintenant quand on te reconnaît dans la rue? Ça te fait plaisir?
Ça me fait plaisir. Moi, il faut bien préciser qu'à mon échelle, c'est totalement tranquille, vivable, etc. Ça devient plus fréquent. Je ne cache pas que ça dépend, je pense, de la fréquence. En fait, ça dépend beaucoup du mood dans lequel on est. Je veux juste dire que si on pensait qu'on serait toujours heureux que quelqu'un nous reconnaisse, quand on est dans un moment où on n'est pas bien, moins bien, à ce moment-là, ça dépend comment c'est fait. Mais je peux le vivre de façon plus intrusive, plus difficile, etc. Maintenant, très souvent, moi, je suis hyper touché, hyper content. Et moi-même, j'adore le faire avec des gens. Donc, ce qui est beau, c'est quand si on aime quelqu'un et qu'on voit qu'il le reçoit et qu'il a quelques secondes à ce moment-là pour l'accueillir et pour le remercier sincèrement, tu vois. Pas « c'est vous qui êtes formidable, du coup. Ah, changez pas, vous m'aimez, changez pas. » Non, d'avoir un vrai truc honnête, j'essaye d'avoir ce petit échange et c'est cool, c'est touchant.
Et les dernières paroles sont « Que ce que les autres n'ont pas voulu garder, est-ce que tu gardes des choses? Est-ce que tu es attaché aux objets et aux souvenirs ?»
Pas trop, hein. J'essaye quand même de m'en défaire le plus possible. Et je le vois dans les déménagements que je fais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si un objet a vraiment une valeur sentimentale, selon qui me l'a offert, qu'est-ce que ça revêt comme sens, oui, je peux y être attaché. Mais j'espère qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place. On le rappelle plus que jamais. Dans ce podcast sur l'écologie, la planète, c'est important.
Mais tu gardes pas, par exemple, ta première affiche, tes trucs comme ça, tous ces trucs-là ?
Alors là, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Et surtout, rien de plus malaisant, je pense, que d'avoir une affiche de moi chez moi. Hein.
Non, mais bien sûr, mais c'est des souvenirs, quoi. Des souvenirs de carrière, tu vois ?
Non, puis maintenant, on a des trucs sur les téléphones. Je te parlais de Jasmin. Oui. Je sais que j'ai des photos où on me voit avec ce costume-là. Elle est là, elle existe. Je sais que je pourrais éventuellement la retrouver. Voilà, j'ai pas besoin de l'afficher en 4x3.
Très bien. Et la dernière question, qu'est-ce que tu garderas de ce podcast ?
Je suis trop content parce que c'est vrai que hier, je t'ai posé la question. Tu me demandes de me livrer, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et j'avais des appréhensions et je suis trop content parce que déjà, ce qui fait sens dans le fait de faire ce podcast, c'est de le faire avec toi. Il faut dire aux gens qu'on s'est découvert l'an dernier quand avec Étienne, vous m'avez dit « Écoute, on aime beaucoup ton travail, on aimerait t'avoir. » Et moi, j'arrive dans un comédie club, j'arrive de Lyon, je ne connais pas. Déjà, j'ai la chance de pouvoir faire avec vous un comédie club de plus. Et je vous vois m'accueillir avec une bienveillance et accueillir tous les artistes. On en reviendra sur la phrase que tu dis aux gens, vous êtes des stars, je veux être ta star à toi, et ça me fait mal quand tu le dis à tout le monde. Ce que ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est que vous le faites avec tous les artistes que vous avez, et c'est un écrin de bienveillance à ce moment-là, où le métier est suffisamment difficile que pour qu'on ait marché ou qu'on n'ait pas marché, on sait que on restera amis à la fin et qu'il n'y a pas de jugement. Et quand j'ai découvert ça et on se voit de semaine en semaine sur des scènes différentes, qu'est-ce que je garderai de ce podcast, c'est que tu as une très bonne structure avec les paroles de ta chanson, que ce podcast il est rondement mené et que le succès que tu as, tu le mérites, et je me suis senti suffisamment bien pour essayer de te donner le meilleur, le plus profond, le plus sincère de ce que je pouvais avoir de moi pour toi, Guillaume.
T'es un amour, tout simplement. On va dire vive la Corse.
Merci.
Vive, comment on dit les bagarres en Corse ?
Vive les cazzutades.
Cazzutades, vive les cazzutades, vive Roberto Benigni.
Oh, vive Roberto Benigni. Allora, je peux dire une phrase en italien ?
Vas-y.
Io penso che la società italiana doveva fare qualcosa.
Wow, ça veut dire quoi ?
Je sais même pas moi trop. Non, vive, je sais ce que ça veut dire.
Vive Christophe Maé.
Papa !
Ok, vive ce rêve bleu. Vive Jasmin.
Vive Jasmin.
Vive les critiques quand elles sont constructives. Vive le stand-up français.
Vive Guigui.
Oh. Et vive, c'est quoi déjà ton nom ?
Julien Saint-Signy.
Allez, ça marche.
Merci.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.